RFI. Grand reportage.
Au Rwanda, ce dimanche 7 avril marque le début de 100 jours de commémoration du génocide contre les Tutsis. 1 million de morts selon les Nations Unies. Depuis, 61 personnes ont été condamnées par le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Plus d'1 million de jugements ont été rendus par les Gacaca, ces tribunaux inspirés de la pratique coutumière. Mais il reste encore des fugitifs recherchés, des personnalités en exil qui n'ont pas été inquiétées et des silences qui torturent toujours les rescapés. Rwanda, 30 ans après le génocide, un besoin de justice et de réponse. C'est un grand reportage de Lucie Mouillot et Amélie Tullet.
Je m'appelle Yacine Tarsis, je suis ceinture noire, 7e dan de karaté.
Rescapé de l'Institut de sciences agronomiques de Nyanza dans le sud du pays, Tarsis Sindzi a aidé plus d'une centaine de personnes à s'enfuir jusqu'à la frontière avec le Burundi en 1994. Partie civile du procès de l'ex-gendarme Philippe Manier en France, le survivant a assisté l'année dernière à sa condamnation à perpétuité par la cour d'assises de Paris.
Nous sommes fiers de ce qui se passe. Ça représente du respect pour nos familles et puis comme la justice aide à tout le monde et puis ça nous donne un peu de la tranquillité parce qu'on trouve que ce n'est pas négligé. Même après 30 ans, même comme le crime, l'animosité qu'ils ont fait, ça ne s'efface pas. Ça traînait quand même. Et il ne faut pas ignorer que les pays étrangers ont donné des contributions de la poursuite un peu tard. Ça, il faut le signaler. Mais malgré que c'est tard, je proposais à ce que ça soit continu pour que les témoins ne disparaissent pas avant le jugement.
Une justice lointaine et tardive pour beaucoup de rescapés. En France, le premier procès d'un génocidaire réfugié dans l'Hexagone s'est tenu 20 ans après les faits. Alain Gauthier, président du collectif des parties civiles pour le Rwanda.
On a commencé notre travail de recueil de témoignages auprès de rescapés en 1996. Mais c'est à partir de 2001 qu'en créant le collectif des parties civiles pour le Rwanda, on s'est vraiment organisé pour pouvoir venir sur place au Rwanda et recueillir les témoignages des tueurs ou des rescapés concernant les personnes qu'on retrouvait en France réfugiées.
Vous suivez combien d'affaires en ce moment, combien de dossiers?
Bon, je ne sais pas, mais on en a probablement encore une trentaine parce qu'il y a eu, je crois, 6 non-lieux. Donc des personnes qui ne seront pas jugées si nous n'apportons pas de nouveaux éléments. 2 personnes sont décédées et puis maintenant, avec les dossiers ouverts par le parquet, oui, il devait y avoir au moins 35, presque une quarantaine de dossiers. Depuis 2014, on a eu 7 personnes jugées. Mais quand on voit l'ampleur de la tâche, il est clair que nous n'arriverons pas au bout. Un certain nombre de ceux qu'on poursuit en justice ne seront jamais jugés. Alors, certains pour des raisons peut-être politiques, je pense à Agathe Abialimana, mais d'autres parce qu'ils sont âgés et qu'ils seront probablement décédés avant d'être déférés devant la cour d'assises. Donc, comme je le répète, mais tellement souvent, c'est que le retard qui a été pris par la justice en France ne se rattrapera jamais.
Donc, c'est quoi l'urgence aujourd'hui pour ces poursuites?
Alors, non seulement les témoins disparaissent, victimes ou tueurs, mais également les mémoires s'effritent. Donc ce sera pour nous de plus en plus difficile de trouver des personnes qui veulent se constituer partie civile.
Je m'appelle Amelda Mukamudodo, j'ai 61 ans. Cet endroit, là où nous nous trouvons, a servi de prison pour enfermer beaucoup de Tutsis qui venaient de Tumba, Nyaruguru et Nyakibanda. Mes enfants, mes proches, mes voisins ont été détenus ici, je le sais. Ceux qui étaient emmenés ici étaient gardés jusqu'à ce qu'ils soient tués. Sosten vivait à côté, il faisait partie de ceux qui ont organisé tout ça. On faisait croire aux gens qu'on les emmenait ici pour les protéger. Je le connais très bien, Sosten. Si je le croisais, je pourrais le reconnaître. C'était un gynécologue à l'hôpital universitaire de Boutaré. Il travaillait à la maternité. C'est là où nous allions pour être soignés. J'ai accouché là-bas. Il était un habitant de Guitoua. Je le connais très bien. Selon moi, ils ont trop tardé en France à l'arrêter. La France ne nous a pas rendu justice en le laissant tranquille si longtemps. Pardonnez-moi de dire cela, mais au moins maintenant, la justice est en marche. Nous vivons maintenant dans un pays en paix. Je suis en vie, mais nous sommes tristes. Beaucoup de gens qui ont commis des atrocités n'ont toujours pas été arrêtés.
Sosten Munyemana a pu exercer comme gynécologue durant de longues années dans le sud-ouest de la France jusqu'à l'âge de la retraite. Le 20 décembre dernier, à 68 ans, il a été condamné aux assises à 24 années de réclusion criminelle pour son implication dans le génocide. Pendant les débats, Sosten Munyemana a affirmé avoir été un Hutu modéré qui avait tenté de sauver des Tutsis en leur offrant refuge dans ce bâtiment administratif du secteur de Tumba, sur les hauteurs d'une des nombreuses collines qui entourent l'université de Butare, dans le sud du Rwanda.
Je m'appelle Jean-Marie Vianney Gachougui, j'ai 65 ans. Venez, je vais vous montrer. Vous voyez ces gens là-bas, l'homme avec le t-shirt blanc? C'est à ce niveau-là que Sosten vivait. Là où nous nous trouvons, il y avait une barrière un peu au-dessus. Ils contrôlaient les cartes d'identité. Et ceux qui étaient Tutsis étaient emmenés ici. Ils amenaient entre 20 et 30 personnes chaque jour. Et la nuit, ils les prenaient pour les tuer à l'extérieur. Le matin, ils prenaient d'autres gens pour les tuer la nuit. Lui, Sosten, il avait la clé de cet endroit. Il avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer. C'est lui qui avait le plus d'autorité ici. C'est attristant et honteux qu'il ait pu vivre une vie normale en France. On a dénoncé cela plein de fois, mais rien n'était fait, tout était repoussé à plus tard. Cependant, maintenant, nous sommes au moins satisfaits qu'il ait été jugé. Mais j'ai entendu qu'en France, les gens voyaient souvent leur peine écourtée. Je veux qu'il purge la totalité de sa peine. J'ai aussi appris qu'il avait fait appel. J'espère vraiment qu'il purgera la totalité de sa peine.
Je m'appelle Marie-Claire, je suis la représentante d'Ibuka pour le secteur de Tumba. Nous avons suivi le procès, mais de loin. Sa condamnation n'est pas à la hauteur des crimes qu'il a commis. Mais le fait qu'il ait été reconnu coupable, ça nous a rendus heureux. Personnellement, je crois qu'il aurait dû être condamné à la perpétuité pour ce qu'il nous a fait. Attendre aussi longtemps son arrestation, ça a été une forme de torture pour nous. Savoir qu'il a pu vivre librement toutes ces années, c'est de la torture. Mais finalement, il a été arrêté et jugé, donc je suis heureuse de cela. Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens qu'il a tués qu'on n'a toujours pas retrouvés. Mais le fait qu'il ait été arrêté, ça veut dire qu'il ne peut plus faire de mal à personne. Cela me soulage qu'il soit entre les mains de la justice.
Il y a ceux que la justice rattrape même tardivement, mais aussi ceux qui sont toujours en fuite. Deux fugitifs sont encore, en 2024, recherchés par la justice internationale.
Sikou Boabo, c'est lui qui donnait les ordres ici, autour du rond-point. Il appelait les gens des cellules voisines pour se rassembler ici, au rond-point, et puis il donnait l'ordre d'attaquer pour qu'il ne reste personne.
Fidèle Simougomwa marche en direction de l'église catholique de Moubouga. À 59 ans, l'ancien génocidaire, libéré après 7 ans de prison, se souvient bien de ses deux derniers fugitifs, le bourgmestre de la commune Charles Sikubwabo et l'homme d'affaires Riyandi Kayo.
Tous ces gens, on se connaissait même avant le génocide. Sikubwabo était un ancien militaire. Riyandi Kayo était un commerçant d'ici. Lui aussi, je le connaissais. Ce sont les gens qui ont beaucoup participé au génocide. J'ai témoigné contre eux sur les crimes qu'on a commis ensemble. Morts ou vivants, le sang des Tutsis tués va les poursuivre. S'ils étaient des gens de bon cœur, ils devraient retourner au Rwanda pour demander pardon.
Devant l'église catholique, un groupe d'enfants joue au ballon. Sur les murs blancs de l'édifice, plus de signes visibles du massacre commis à l'intérieur, où plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie en avril 1994. Un massacre que les fugitifs sont accusés d'avoir aidé à organiser. Vincent Oussabim Foura a perdu plusieurs membres de sa famille.
Même si c'est très tard, ce serait toujours bien de le retrouver ou qu'il se présente devant la justice et qu'il soit puni pour tout ce qu'il a fait. Ce serait un grand échec de voir les 30 ans passer sans justice. Sikubwabo aurait dû être un exemple en tant que dirigeant, mais malheureusement, il a participé au massacre. Mais je voudrais lui dire qu'il n'a pas réussi à tous nous tuer.
Au Rwanda, entre 17 000 et 20 000 génocidaires vont sortir de prison dans les 5 prochaines années. Un défi au regard du profil de ces prisonniers.
Ce n'est pas beaucoup comparé à tous ceux qui sont déjà passés en prison et qui sont sortis au cours des 30 dernières années. Mais ce groupe spécifique, qui va être libéré dans les 4-5 années à venir, est très critique. Car ce sont les détenus qui ont reçu les peines les plus lourdes, ceux qui ont commis les crimes les plus atroces.
Franck Kayitare est le représentant de l'ONG Interpeace au Rwanda.
Des parents qui ont assassiné leurs enfants, des gens qui ont violé, qui ont utilisé le viol comme arme de génocide, des gens qui avaient autorité sur les autres, qui ont mobilisé pour des crimes de masse, des médecins qui ont assassiné leurs patients. Ces gens étaient dans des positions de pouvoir là où ils vivaient. Alors, quand ils vont rentrer chez eux, ils doivent avoir changé. La société doit pouvoir avoir confiance dans le fait qu'ils sont réformés. Ils retournent dans les communautés où ils vont vivre aux côtés des survivants. Donc c'est un programme vaste d'accompagnement qui se concentre sur de multiples aspects.
L'ONG Interpeace a déjà accompagné la sortie de prison de 1700 génocidaires depuis 2021. C'est peu au regard des besoins, mais d'autres organismes s'engagent aussi dans ce chantier. Besoin de justice, besoin de réponse aussi. Rescapés et familles de victimes répètent leur besoin de savoir où sont morts leurs proches et où retrouver leurs corps. 30 ans après le génocide, des charniers sont encore découverts.
Ça, c'est la maison de Hicham Monda. Hicham Monda, c'était le père de la famille. Hicham Monda, il était génocidaire, il était emprisonné. Il a donné cette parcelle à sa fille comme héritage. Et la fille a construit la maison en 2007 sur des personnes, des corps.
Théodat Simboyintore est le représentant de l'association de rescapés Ibuka pour le district de Houyé. Beaucoup de tristesse dans ses yeux quand il regarde le terrain en pente à nos pieds, une parcelle de terre retournée dans le village de Ngomasis, en contrebas d'une route où en 1994, les tueurs avaient érigé une barrière. Ici, en octobre dernier, sous une maison, des dizaines de corps ont été retrouvés.
Comment on a trouvé les corps ici ? Sa fille, après avoir construit une maison, il a voulu de construire les clôtures. Et en creusant pour chercher là où on peut mettre la fondation, les maçons ont trouvé le corps. Les autorités locales interviennent et disent qu'ils vont continuer à chercher le corps.
D'abord une trentaine, puis des dizaines d'autres, sous la cuisine, les toilettes. La maison, finalement, a été détruite. Des corps par centaines. Et sous une bananeraie voisine, encore des ossements. Au total, selon Ibuka, plus d'un millier de victimes.
On est sur un tout petit espace là.
Oui, oui.
C'est pas grand. On est sur un terrain de 2-3 pavillons.
Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est juste sur cette parcelle.
Est-ce qu'on sait si cette dame savait qu'il y avait des corps sous sa maison?
Ah, bien sûr qu'ils savent, parce que quand les maçons disent qu'ils trouvent des corps, ils disent non, ça c'est pas votre affaire, il faut laisser ça.
Qu'est-ce que ça vous fait à vous, monsieur, d'imaginer qu'il y avait une maison construite ici sur un charnier?
C'est toujours un choc. Quand pendant 30 ans, la personne n'a pas eu le temps de donner l'information là où on peut trouver les corps, et on les retrouve dans cette manière, c'est vraiment choquant. Ah, on se pose beaucoup de questions en disant, c'est ce que nous vivons avec les gens qui sont comme ça. Hein? Qui, après 30 ans, les gens ne voudraient pas changer. On n'a pas de réponse exacte. On a toujours le chemin. On doit toujours continuer à éduquer les gens, à sensibiliser les gens, de donner les informations.
Est-ce que vous avez pensé que peut-être il y avait des membres de votre famille ici?
Moi, personnellement, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
C'est possible?
C'est possible, c'est possible. C'est possible, parce que moi aussi, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la chance d'enterrer mes membres de la famille. On ne sait pas.
La propriétaire de la maison et son père sont depuis en prison et seront jugés. Les ossements et les vêtements, une fois exhumés, sont nettoyés dans un bâtiment administratif tout proche.
Donc là, on est dans une salle qui ressemble à une salle de classe.
Oui, c'est une salle de réunion.
Donc sur le sol, qui est en dalle de béton, il y a des grandes bâches en plastique épais qui sont sur le sol. Et les ossements sont posés sur les bâches pour être triés et nettoyés.
Oui, oui.
Il y a une bâche là-bas avec beaucoup de vêtements, avec des couleurs vives.
Oui, oui. C'est ça, sont déjà nettoyés ces vêtements.
Donc là, juste à nos pieds, il y a une bâche avec tout un tas d'ossements et de crânes, encore plein de terre.
Oui, oui.
Et on les nettoie comment?
On utilise le savon, il y a aussi des produits appropriés. Ces gens sont en train de les nettoyer.
Donc il y a des femmes et des hommes et des jeunes.
Oui, oui.
Entre les deux murs et les fenêtres sont grandes ouvertes. On étend une grande corde bleue pour pouvoir étendre les habits qui vont être mis à sécher et qui seront ensuite déposés au mémorial.
Oui, oui.
Pendant que des jeunes hommes, présentés comme des volontaires, frottent avec des gants de crin les ossements dans de grandes bassines en plastique fluo remplies d'eau mousseuse, Consolé Mukamana, quadragénaire, dépose délicatement les os qui ont perdu leur teinte terreuse.
Ils vont être enterrés dignement, plus personne ne vivra au-dessus d'eux. Ma famille n'est pas d'ici, mais on m'a raconté qu'ils ont été tués ici. C'est très important de retrouver ces corps, les habits surtout. Quand vous avez perdu quelqu'un, si vous vous souvenez du vêtement que cette personne portait, vous le cherchez. Ma mère portait une robe en pagne verte. Chaque fois qu'on trouve des vêtements, je cherche cette robe.
C'est une pagne.
Rwanda, 30 ans après le génocide, un besoin de justice et de réponse. Un grand reportage de Lucie Mouillot et Amélie Tulet. Réalisation Tiffany Menta.